Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, l'UNRWA marque ses 65 ans. Au Soudan du Sud, plus de 100 000 personnes ont fui les combats en deux mois. Le HCR transfère des réfugiés burundais vers des camps viables en RDC. L'Assemblée Générale écoute les experts de la crise d'Ebola. Moins de personnes souffrent de faim ou malnutrition en Afrique, selon la FAO. Enfin, dans Voix de Femmes, Sandra Carvao explique le Code mondial d'éthique du tourisme. C'est avec le cœur lourd que le secrétaire général a marqué aujourd'hui le 65e anniversaire de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Une agence a indiqué Ban Ki-moon qui n'aurait pas dû exister aussi longtemps. L'UNRWA, a-t-il dénoncé, existe à cause d'un échec politique. Et dans l'absence de toute solution juste et durable à la détresse des réfugiés palestiniens, l'UNRWA est devenue bien plus qu'une agence. L'UNRWA est devenue un lien vital. Nous reviendrons sur cet anniversaire en fin de journal. Au Soudan du Sud, des dizaines de milliers de personnes fuient les combats dans l'État d'Unité et du Haut-Nil. Le pays compte désormais plus de 1,5 million de déplacés et l'accès aux populations dans ces deux États est actuellement presque impossible pour les équipes humanitaires en raison des restrictions et des combats. Alpha Diallo.
Les intenses combats qui font rage dans l'État pétrolier d'Unité et du Haut-Nil dans le nord du Soudan du Sud ont provoqué un exode massif de la population. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 100 000 déplacés ont fui les violences de ces deux derniers mois. Depuis le début de l'année, au moins 120 000 personnes se sont exilées dans les pays voisins en Éthiopie, en Ouganda et au Soudan, où pour la seule semaine dernière, 6 000 Sud-Soudanais se sont réfugiés au sud Kordofan. Selon Adrien Edwards, porte-parole du HCR, les réfugiés justifient leur fuite par la recrudescence des combats et l'insécurité alimentaire grandissante. En effet, plus du tiers de la population du Soudan du Sud, soit près de 4 millions de personnes, aura besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Les bureaux du HCR au Soudan, en Éthiopie, en Ouganda, ont d'ailleurs signalé une forte hausse des arrivées de réfugiés en mai. Et compte tenu de l'aggravation de la sécurité et de la situation humanitaire, le HCR se prépare à un afflux beaucoup plus important des demandeurs d'asile. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
En République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a entamé ce lundi le transfert des réfugiés burundais du territoire d'Uvira vers le camp de Lusenda, en territoire de Fizi au sud Kivu. Selon le chef du sous-bureau du HCR à Uvira, Mante Kante, le nouveau centre réunit les conditions minimales pour accueillir ces déplacés. Reportage de Fiston Ngoma de Radio Kapi.
C'est dans un contexte de vulnérabilité que ce premier groupe de réfugiés burundais a été choisi pour commencer à faire mouvement vers le nouveau camp à Lusenda. Ils étaient 830 personnes logées depuis un mois ici au centre de transit de Kavivira, dont 333 sont convoyées ce matin par les camions du HCR. Leur joie est visible, ils l'expriment par des cantiques religieuses dans le véhicule. Pour le chef du bureau du HCR à Uvira, les conditions minimales sont réunies à Lusenda pour accueillir ces réfugiés. Le chef du bureau HCR Uvira, Mante Kante.
On a fait les premiers pas déjà au niveau du camp et nous pouvons pour le moment recevoir plus de 600 personnes et parallèlement à ça les constructions continuent. Une fois que les réfugiés arrivent, ils vont passer 3 jours au niveau de centre d'accueil pour approfondir le screening et tout ce qu'il y a. Après les 3 jours, ils passent dans les abris individuels.
Un deuxième convoi est attendu demain à Lusenda par les camions du HCR depuis le centre de transit du HCR à Kavivira ou Vira.
L'Assemblée générale a entendu les chefs de l'effort contre l'épidémie d'Ebola ce matin rendre compte de la situation et des analyses rétrospectives pour améliorer la réponse à l'avenir contre les épidémies. Selon eux, malgré les progrès au Libéria, qui est désormais libre d'Ebola, en Sierra Leone et en Guinée, la partie n'est pas encore gagnée. Peter Graff, le chef de la MINUOS, la mission onusienne pour contrer Ebola, a précisé que la Guinée avait de nouveaux cas dans 4 préfectures qui ne sont pas associées aux listes de contacts et que des communautés résistaient encore aux mesures sanitaires. Ban Ki-moon a exhorté les États membres à ne pas baisser les bras.
Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ce qui va se passer maintenant est critique. Après avoir fait tant de progrès et avoir tellement investi, nous ne pouvons pas baisser les bras avant que l'épidémie ait été complètement jugulée. D'autant que la saison des pluies rendra les interventions plus difficiles. Les organisations des Nations Unies auront besoin de ressources considérables pour couvrir la courte distance qui nous sépare encore et pour appuyer les programmes de relèvement rapide. Mon envoyé spécial continue de mobiliser des ressources pour combler les déficits.
L'Angola, Djibouti, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali et Sao Tomé et Principe ont réussi à réduire de moitié la proportion de la population souffrant de la faim et à réduire de moitié le nombre absolu de personnes souffrant de malnutrition. C'est ce qu'affirme la FAO dans sa vue d'ensemble régionale sur l'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne 2015. L'Afrique de l'Ouest a accompli des progrès remarquables en réduisant la prévalence de la sous-alimentation de 60%. Kofi Amegbeto, économiste chargé des systèmes alimentaires au bureau régional de la FAO pour l'Afrique, revient sur les résultats du rapport.
La prévalence de la sous-alimentation en Afrique subsaharienne a baissé de 33% à 23%. Une personne sur quatre souffre de la faim selon les toutes dernières estimations, ce qui est considérable en termes de progrès par rapport à la période 90-92 où une personne sur trois en souffrait. Le nombre total de personnes sous-alimentées continue de croître avec une estimation de 220 millions de personnes en 2014-2016. Ceci est dû tout simplement à une croissance rapide de la population. La rapidité de réduction de la sous-alimentation est faible par rapport à la rapidité ou bien le taux de croissance démographique.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour à présent sur le 65e anniversaire de l'UNRWA. Vouée lors de sa création à ne pas exister dans la durée, l'agence a vu le nombre de réfugiés palestiniens dépendant de ses services, qu'ils soient éducatifs ou humanitaires, augmenter sans cesse. À l'heure actuelle, il manque de surcroît à l'agence 100 millions de dollars pour financer ses activités au-delà du mois de septembre. Au micro d'Isabelle Dupuis, Pierre Krenbull, le commissaire général de l'UNRWA revient sur certains des plus grands défis auquel l'agence a dû faire face dans son histoire.
C'est vrai que c'est un moment de réflexion et d'un peu d'introspection aussi sur le fait d'avoir pendant 65 ans dû affronter les défis multiples qui sont liés finalement au sort des réfugiés de Palestine. 700 000 au départ, en 1948-49, et aujourd'hui plus de 5 millions. C'est finalement la population de la Norvège ou de Singapour. Et donc on se rend compte aussi que, à la fois, l'UNRWA a réalisé des choses très importantes sur le plan de l'éducation, de la santé, de maintenir finalement aussi l'espoir en vie. Mais d'un autre côté, 65 ans, c'est aussi le rappel d'une absence de solution politique à toute cette problématique. Donc c'est clair que l'agence a traversé des crises très importantes, comme la guerre civile libanaise, les intifadas, les différents conflits de Gaza, maintenant le drame épouvantable de la Syrie. Et au milieu de ça, on le fait parce qu'on est absolument convaincu que les réfugiés de Palestine méritent toute l'attention qu'ils reçoivent.
Vous avez parlé de la situation à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un état des lieux dans la bande de Gaza depuis le conflit de l'été dernier? Où en est par exemple la reconstruction? Quelles sont les perspectives pour les jeunes? Il y a beaucoup de problèmes avec le chômage, de problèmes de liberté de mouvement, toutes les conséquences du blocus qui est imposé.
Oui, c'est une situation qui reste extrêmement dramatique sur un plan humain et je crois que le monde parfois regarde Gaza comme un lieu comme ça semi-fermé parce qu'entouré d'une grande barrière de sécurité, ce qui a tendance un peu à déshumaniser la situation alors que la réalité c'est que comme toujours les conflits c'est d'abord et avant tout les conséquences humaines qui sont importantes et là on a entre le moment où le blocus a été imposé et aujourd'hui eu une augmentation qui est passée de 80 000 personnes qui dépendaient de l'aide alimentaire de l'UNRWA avant le blocus à plus de 800 000 aujourd'hui. Nous avons 120 000 personnes encore sans abri depuis le conflit de l'an dernier par la lenteur de la reconstruction. Et puis nous avons 65% de la population qui a moins de 25 ans, qui sont donc des jeunes qui sont éduqués, qui souhaiteraient travailler mais qui n'ont pas accès à l'emploi à cause du blocus. Donc c'est cette combinaison qui est à mon avis tout à fait problématique. C'est une situation explosive potentiellement, un gros problème en termes de stabilité régionale et il faut absolument que ça soit adressé sur un plan politique, sans quoi c'est cycles de violence qu'on a connus à Gaza vont se répéter, se reproduire.
Une autre des questions très préoccupantes, c'est la situation dans le camp de Yarmouk. Que sait-on des conditions de vie dans ce camp qui était déjà terrible et qui est maintenant passé sous contrôle de l'État islamique?
Alors, c'est une situation qui reste humainement catastrophique parce que c'est un peu à l'image de l'ensemble du conflit en Syrie. Vous avez une situation d'un quartier du sud de Damas qui a subi maintenant depuis plus de deux ans un siège extrêmement dur avec le gouvernement autour de Yarmouk et les différents groupes à l'intérieur. Et depuis le 1er avril, effectivement, l'État islamique est entré et qui est en contrôle d'une partie du camp. Et au milieu de ça, il restait 18 000 civils sur les 160 000 de l'origine. Et aujourd'hui, des milliers ont encore fui les combats qui ont repris avec une intensité particulière depuis avril. Donc c'est une situation dramatique. La population était déjà arrivée à un niveau calorifique de 400 quand l'OMS donne un niveau moyen quotidien autour de 2000 pour pouvoir survivre dans des conditions dignes. Et la seule bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que l'UNRWA a réussi maintenant régulièrement à assister les personnes dans les quartiers avoisinants Yarmouk auxquels nous avons accès régulièrement depuis plusieurs semaines.
Voix de femme.
Cette semaine, dans Voix de femme, Sandra Carvao, chef de la communication de l'Organisation mondiale du tourisme, fait le point sur la proposition de transformer le Code mondial d'éthique du tourisme en une convention internationale intégrale. Ce code contient des dispositions afin de protéger l'environnement et de faire profiter aux communautés directement concernées, mais aussi d'établir des dispositions spécifiques pour protéger les enfants. Il s'agirait donc de lui donner un caractère contraignant afin d'accroître la responsabilité des gouvernements.
Le Code mondial d'éthique du tourisme, c'est un document qui a été approuvé par l'Assemblée générale de l'OMT en 1989 et qui était aussi appuyé pour l'Assemblée générale des Nations unies en 2001. C'est un code volontaire qui a identifié qu'est-ce que c'est la responsabilité de tous les acteurs qui prennent partie dans le développement touristique, à dire des destinations, les gouvernements, les entreprises et des travailleurs, mais aussi des touristes eux-mêmes. Alors, pendant les années, l'OMT a travaillé avec les pays membres pour augmenter l'implémentation de codes dans la législation nationale. On travaille aussi avec les compagnies pour être sûr que toute la partie de développement durable est inclus dans les opérations des compagnies. Mais le problème que le code trouve, c'est que c'est un document volontaire. Et alors, le comité d'éthique, il a décidé de proposer à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme, la possibilité de travailler sur la transformation du code dans une convention internationale avec un pouvoir plus fort en termes d'implémentation.
Alors vous avez mentionné le développement durable comme aspect que l'on cherche à intégrer dans ce code, mais quels sont les autres aspects de ce code?
D'abord, il y a des différents destinataires pour les codes. Il y a des destinataires à niveau du gouvernement. Il y a des recommandations très claires sur l'importance, par exemple, d'être sûr que dans le développement touristique, toute la planification et toute l'implémentation des décisions sont faites en coordination avec les communautés locales pour être sûr que le tourisme peut avoir en compte les besoins et les désirs des communautés qui vont recevoir les touristes, mais aussi pour être sûr qu'il y a un bénéfice qui va directement de l'activité économique qui fait le tourisme dans les communautés locales. Il y a aussi des recommandations pour les compagnies pour être sûr de appuyer le travail avec toutes les conditions pour ces travailleurs, mais aussi prendre compte, par exemple, l'impact social que les compagnies peuvent avoir dans une destination, mais aussi l'impact environnemental qu'elles peuvent avoir. Il y a des recommandations aussi pour les touristes, parce que nous-mêmes, s'il y a plus d'un milliard de touristes dans le monde, on peut aussi faire la différence avec le respect pour les communautés, le respect pour l'environnement, et c'est très important aussi d'engager les touristes dans cette partie de responsabilité.
Il y a aussi notamment la question de la protection des enfants qui est revenue lors de la réunion du comité.
C'est un des problèmes qu'on trouve dans le monde. Bien sûr, le secteur touristique, en même temps qu'il est en train d'avoir une croissance très significative comme activité économique, il y a aussi les difficultés d'être sûr et travailler pour éviter que l'infrastructure touristique peut être utilisée pour des fins d'exploitation des enfants. Et on parle d'exploitation des enfants dans le sens de travail infantile, d'exploitation, de trafic. Et ça, c'est une des priorités que le comité a décidé de mettre dans son travail. Le comité et la task force veulent travailler ensemble pour comprendre mieux le phénomène aussi. On est en train de faire un partenariat avec d'autres organisations pour faire une étude sur ces phénomènes-là, mais aussi de travailler avec les gouvernements et pour que les gens soient plus connaissants du phénomène et peut aider aussi à niveau local à combattre ce phénomène.
Et c'est avec Sandra Carvao que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Je vous rappelle que vous pouvez écouter nos programmes sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.